Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Les deux ministres allemands et français y voient vraiment une distorsion de concurrence entre les États-Unis et l'Europe. Proxinvest indique que la rémunération... Ah ben, je vais quand même présenter mes invités pour commencer. Laurence Daziano, bonjour. Maître de conférence à Sciences Po, membre du conseil scientifique de la Fondapol. Emmanuel Combes, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur à la Skema Business School et également à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes aussi ancien vice-président de l'autorité de la concurrence. On peut vous lire dans les chroniques décalées d'un économiste aux éditions Concurrence L'Opinion. Christian Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. Donc Proxinvest a donné le montant, 7,9 millions d'euros en moyenne en 2021, record historique pour la rémunération des patrons du CAC 40. C'est une hausse de 52% comparée à 2019. Pour le SBF 120, on est à 4,5 millions d'euros. La hausse est de 22% comparée à 2019. La rémunération des patrons du CAC 40 représente 100 fois la rémunération moyenne de leurs propres salariés. C'est une première depuis 8 ans. On a tous les ingrédients d'un bon sujet à la française, Emmanuel Combes.
Oui, c'est un sujet qui est passionnant. Et il est passionnant parce qu'il y a une grosse littérature économique mais depuis 30 ans sur le sujet. Alors, sans prendre parti, on peut dire qu'il y a deux grandes approches. D'abord, pourquoi des rémunérations, et vous l'avez dit, pas des salaires,
hein, oui.
Des rémunérations aussi élevées. Et puis ensuite, comment expliquer que ces rémunérations sont finalement peu des salaires, mais plutôt des rémunérations variables, notamment des bonus. Alors, pour les salaires très élevés, il y a des explications intéressantes, notamment une première explication qui est assez proche, je dirais, du marché des superstars, du marché des footballeurs, qui est la théorie de la rareté. Je crois que c'était Schleifer qui disait, finalement, il y a un marché des dirigeants qui sont capables notamment de redresser des entreprises qui sont en difficulté. Ces dirigeants-là sont en quantité rare. C'est un marché international. Et bien, tout ce qui est rare est cher. Premier type d'explication.
Seulement, le mercato des patrons français, il ne crève pas les yeux. Il est beaucoup plus vrai dans le foot qu'il n'est vrai chez les grands patrons.
Sans doute. Et il y a une deuxième explication que j'ai trouvée intéressante. C'est la thèse de l'effet de levier. Qui veut dire, quand vous êtes à la tête d'une entreprise qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a beaucoup de salariés, votre décision a potentiellement un impact démultiplié. Et donc, il devrait y avoir une corrélation, en fait, entre la taille de l'entreprise, mesurée par son chiffre d'affaires, par son nombre de salariés, et votre rémunération. Et ça marche assez bien. Mais du coup, ça nous emmène sur un autre type de débat, hein, peut-être plus mouvant, plus délicat, qui est de dire, mais est-ce que du coup, le patron n'a pas une incitation à faire augmenter la taille de son entreprise pour percevoir une rémunération plus élevée? Et là, on arrive au deuxième sujet, qui est moins la question du niveau de la rémunération que de sa composition. Et là, vous avez une vieille théorie économique, enfin, qui date des années 30, le gouvernement d'entreprise, qui vous dit, les actionnaires, ils contrôlent pas vraiment l'action des managers, parce que les managers, ils sont tous les jours dans la boîte. Hein. Un moyen, en fait, de les contrôler, en tout cas de les inciter à avoir de la performance cette fois-ci, c'est pas seulement de bien les payer, c'est en fait de les payer en variable. Et donc c'est toutes les rémunérations qui sont en fait indexées sur des indicateurs de performance dans les deux sens du terme. Si ça marche bien, ils touchent leur stock option, mais si les performances ne sont pas au rendez-vous, par définition, ils ne percevront pas ces bonus. Donc c'est intéressant. Il y a quand même des justifications, je dirais peut-être pas des justifications, mais des explications économiques à cela. Puis il y a une dernière théorie qui est intéressante, c'est la théorie du tournoi, qui vous dit en fait, dans un tournoi, il faut payer démesurément le premier pour inciter ceux qui sont juste en dessous. Donc là, on parle plutôt du marché des top managers à être extrêmement efficaces parce qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est de prendre la place du calife. Ce à quoi d'autres auteurs vous opposent, attention, si vous avez des écarts de salaire trop importants, notamment dans le top management, vous pouvez avoir des problèmes de coopération et donc de travail en équipe. Donc vous voyez, il y a une littérature économique qui ne tranche pas le sujet, mais qui en tout cas l'aborde de manière assez frontale. Et moi, j'aime beaucoup cette idée qu'il y a quand même une corrélation assez forte entre la taille d'une entreprise et sa rémunération.
À la valeur de l'action aussi.
Exactement.
Il n'est pas qu'une question de taille, mais la valeur de l'action.
Ouais, regardez les travaux d'Augustin Landy hein, dans les années 2000. Hein, il avait montré qu'il y avait une corrélation assez forte. Hein. La taille est quand même un facteur explicatif très fort.
Et c'est pas le même sujet, mais il y a un chiffre fascinant aujourd'hui justement sur ce que peut changer l'évolution de la valeur d'une action quand on apprend que Elon Musk a perdu 100 milliards d'euros de fortune.
Alors, attention,
en
Elon
2022.
Musk, il n'est pas salarié de sa boîte.
Oui, oui, oui.
Pour le coup, il est actionnaire.
Ah oui, c'est vraiment voilà. On peut se dire
il est les deux.
Il est les deux.
Oui. Et le suivant, c'est Mark Zuckerberg, moins 83 milliards de dollars. Alors lui aussi, il est un peu les deux.
Oui, mais après, faut.
Christian Parizeau.
J'aime pas trop ces éléments-là parce que, en gros, on compare.
Quels éléments vous voulez dire,
tous ces
Christian.
Éléments d'appréciation du patrimoine de côté. Aujourd'hui, vous valorisez la richesse de Monsieur Musk par rapport au dernier prix échangé de son action Tesla. Bon, on sait, il a 40% de Tesla, donc forcément, $1 de variation de l'action, ça, c'est énorme en termes de valorisation. Mais c'est comme si je valorisais tout un commerce sur son stock. Et je disais, le dernier pull qu'ils ont vendu à 10 euros, bah voilà la valeur du stock. On sait que si derrière le magasin vend d'un seul coup tout son stock, et bah, il va pas le vendre au prix du dernier pull. Donc c'est ça le gros problème qu'on a, c'est qu'on valorise un patrimoine. Alors je sais que c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est, mais c'est une photo. Ce qu'il faut bien comprendre. Et on compare cette photo avec une année de référence. Alors, si la bourse a pris 10%, il s'est enrichi de 10%. Si l'action a chuté de 30%, il a perdu 30% de sa fortune. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'il n'aurait pas vendu, d'ailleurs, au prix de marché qu'on observe aujourd'hui. Donc, il y a toujours, faut prendre toujours ces comparaisons avec beaucoup de prudence. Et pareil, dans la rémunération des patrons, ce qui me gêne beaucoup, c'est la partie variable. Alors, je sais, il faut la valoriser, c'est très difficile. Mais on valorise aujourd'hui des actions gratuites qui leur sont versés sur l'année T, mais qui pourront vendre que dans 2 ans minimum, bloqué 2 ans, 4 ans au minimum, voire des fois avec
et
des
clauses. Et donc on prend le prix de l'année.
On prend le prix d'aujourd'hui. Mais est-ce que dans 4 ans, ils vont le vendre à ce prix-là? Est-ce que ça rentrera réellement à ce niveau de rémunération? Tout dépend de l'action. Et puis derrière, il ne faut pas se leurrer. Quand un patron rentre dans une entreprise en difficulté, je pense au numéro 1 du CAC 40 qui est rémunéré, il a forcément un prix attractif puisque l'action est au plus bas. Et s'il redresse l'entreprise, il a forcément un effet de levier très important. Donc cette partie variable. Cette partie variable me gêne aussi parce que c'est très difficile à apprécier. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un vrai problème aujourd'hui dans les salaires des grands patrons, c'est justement la valorisation de ces parties variables quand on leur met des contraintes environnementaux, sociaux. Comment on les détermine? Comment on met ces contraintes? Est-ce qu'elles sont vraiment si rigoureuses ou pas? En tout cas, c'est juste là où il y a aussi un problème de valorisation. Mais en tout cas, toute la partie variable, faut faire très très attention. Encore une fois, c'est la rémunération, c'est pas le salaire. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui. Et on compare en plus cette rémunération au salaire moyen de l'entreprise, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, je pense qu'il faut approfondir le sujet et pas surtout en parler comme un chiffre global.
Et c'est évident. Alors, c'est toujours un sujet qu'il faut prendre dans sa complexité, ce qui est exactement le contraire généralement qui est fait lors des débats un peu grand public où on va parler du salaire, pas de la rémunération, tout confondre. Et on s'imagine par exemple que M. Tavares, il a mis sur son compte en banque 66 millions d'euros en 2021. Oui, un dernier mot là-dessus, parce qu'après on avance.
Ouais, juste pour réagir à ce que disait Christian, je suis pas sûr que ça a pas de sens de comparer le salaire du top manager avec celui de ses salariés, si on croit à la théorie de la désincitation, qui est de dire, pour le salarié, il peut se dire, mais en réalité, est-ce que je vaux 100 fois moins que mon top manager. Il y a quand même une grosse littérature économique qui vous montre que dès lors que vous considérez que les performances sont liées à l'équipe, il peut y avoir paradoxalement un effet extrêmement désincitatif. Et un deuxième point, ce qui peut être peut-être gênant dans ces rémunérations, c'est les clauses de restitution. J'ai toujours considéré qu'à partir du moment où vous avez des rémunérations qui sont quand même en moyenne, même si j'entends votre point sur la manière de la valoriser forte, vous devez aussi avoir des clauses de restitution quand ces performances ont été acquises par des moyens qui sont contraires à l'ordre public. Par exemple, dans le sujet que je connais bien, si par exemple vous avez eu votre performance parce que vous avez fait une entente sur les prix qui a été par exemple condamnée par une autorité de concurrence, il me semble pas complètement illogique que les actionnaires soient en mesure de reprendre le produit de cette performance puisque finalement vous l'avez acquis par un moyen qui, un, illicite et deux, qui ne relève pas de la concurrence par les mérites.
Il faut reconnaître qu'en France, la loi Sapin 2 a donné un sacré pouvoir aux actionnaires dans la mesure où les entreprises sont de droit français, ce qui n'est pas le cas de Stellantis et donc le rejet par l'Assemblée Générale de la rémunération globale
de Carlos Tavares. Mais il n'y a pas de clause qu'il y ait de clause de restitution dans le code AFEP-MEDEF.
Bon, en tout cas, c'est assez... Moi, je me suis toujours dit, est-ce que... Alors, je prends le sujet avec beaucoup, beaucoup moins de littérature académique ou de précision que Christian Parizeau, mais je me suis toujours dit, le gars, est-ce qu'il sera meilleur ou moins bon s'il est payé 2 millions de plus ou 2 millions de moins?
Ça dépend si vous croyez à la théorie, par exemple, de l'effet de rareté.
Oui. Bon. Et puis c'était Jean-Baptiste Rudel qui disait, le fondateur de Criteo, vous savez, quand vous gagnez 4 millions, si vous en gagnez 5, finalement,
Nicolas, c'était un vrai sujet, par exemple, dans la rémunération des dirigeants d'entreprises publiques. Je me souviens qu'on avait eu ces débats il y a plusieurs années.
Là, il y a un sujet, oui.
Certains dirigeants disaient, je ne viendrai pas bosser pour une entreprise publique, on n'attirera pas forcément les meilleurs. Il y a une relation entre le niveau de la rémunération et la capacité à attirer.
Quand on a capé le salaire des entreprises publiques à 450 000 euros, là, franchement, oui, là, on est très, très, très en dessous d'une forme de repère universel pour le salaire d'un grand patron. Ils ont galéré pour trouver Luc Raymond à la à la tête d'EDF parce que c'était pas très attractif, 450 000 euros. Bon. À côté de ça, ça reste aussi une grosse somme quand on voit qu'au moment de l'indemnité inflation, on a pris conscience qu'on avait 38 millions de Français qui avaient des revenus, pas forcément du salaire, mais des revenus à 24 000 euros, en dessous de 24 000 euros net par an. L'OCDE, Laurence Daziano, nous alerte sur l'inflation, ça va durer. Le choc énergétique mondial, ça va durer. La croissance, ça va ralentir. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, une croissance qui ralentit en 2023, mais l'OCDE dit qu'il n'y aura pas de récession. Ce que moi j'ai noté de très intéressant, c'est aussi que l'OCDE nous dit que la croissance en 2023 et en 2024 sera tirée par l'Asie, pour ses trois quarts, et notamment par les pays émergents d'Asie. Donc ça, c'est intéressant au moment où on parle à chaque fois, peut-être qu'on y viendra au ralentissement du commerce mondial, voire certains de démondialisation, de déglobalisation. Donc ça, c'est intéressant. Alors c'est vrai que l'inflation va augmenter, ce qui va entraîner des politiques monétaires probablement plus restrictives. La BCE, Christine Lagarde, qui s'exprimait la semaine dernière devant les banquiers à Francfort, a indiqué que la BCE aurait une politique, continuera d'avoir une politique restrictive. Quand même noter que la BCE a augmenté son taux directeur de 200 points de base depuis le mois de juillet, ce qui s'est jamais vu à la BCE, ce qui est énorme.
Ces rythmes-là, oui.
Que la prochaine augmentation, parce qu'elle a dit qu'elle aurait lieu, elle était plutôt attendue par les marchés à 50 points de base, mais ce qui va quand même commencer à faire beaucoup. Et puis surtout, ça veut dire que le renchérissement du crédit pour les banques va avoir un impact sur tout le monde. Et au-delà de ce renchérissement, ça veut dire aussi que la Fed commence à faire c'est la fin du quantitative easing et qu'on va commencer à parler du quantitative tightening, comme on dit en anglais.
C'est l'inverse, c'est le moment où on se retire.
Voilà, c'est le moment
et où on dégonfle le bilan.
Voilà, et le moment où on va commencer à dégonfler le bilan avec des lignes directrices qui ont été annoncées pour décembre pour voir comment est-ce qu'on va réduire les achats obligataires de la BCE. Ce qui me gêne toujours, c'est l'espèce d'alignement de la BCE sur la Fed. Au moment où on voit qu'aux États-Unis il y a un frémissement sur le fait que l'inflation serait un peu moins importante, mais c'est surtout que les deux inflations ont des causes totalement différentes.
On a souvent décrit ici, oui. Absolument.
Voilà. Donc pour aller vite, aux États-Unis une inflation qui était vraiment due à la surchauffe de l'économie, en Europe une inflation qui a largement été importée parce que les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté et importée aussi parce que l'euro s'est déprécié par rapport au dollar. Donc est-ce que les causes n'étant pas les mêmes, est-ce que la même politique aura les bons effets? Pour le coup, Christine Lagarde, elle, pour 2023, au contraire de l'OCDE, dit qu'il y aura une récession en Europe. Voilà, je suis pas sûre que la politique soit vraiment adaptée à la situation européenne.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christian? Christian Parizeau, parce que je pense que c'est un sujet que justement la littérature économique devra renseigner. La période que nous vivons est quand même, à mon avis, une période qu'on n'a jamais vécue dans ces termes-là. Et on continue à se poser la question de savoir si la politique monétaire et la hausse des taux est la réponse appropriée. Et effectivement, les deux inflations sont pas les mêmes. Ça commence à ralentir aux États-Unis. On pense même que le pic a probablement été atteint, ce qui n'est sans doute pas le cas dans la zone euro. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, pas les mêmes. Il y a quand même des éléments importants qu'il faut avoir en tête. Moi, il y a un constat tout simple. Aujourd'hui, vous pouvez pas dire que l'inflation est liée au salaire. C'est pas les hausses de salaire qui fait l'inflation. Vous regardez, vous avez eu l'accord en Allemagne, 8,5% de hausse, mais sur 2 ans. Et donc, oui, on est très, très, très loin de l'inflation que vont subir les ménages allemands sur 2023, 2024 et 2025.
On a passé les 11% en rythme annuel en Allemagne.
Voilà. On a un choc, très clairement, sur le pouvoir d'achat. Donc, on peut pas dire aujourd'hui que c'est la hausse des salaires qui entretient l'inflation.
Mais d'ailleurs, personne ne le dit.
Voilà.
Tout le monde est d'accord à l'éviter, mais personne
ne le dit. Par contre, il y a quand même un problème. C'est pourquoi les entreprises réussissent à monter les prix. Moi, j'ai regardé, par exemple, les résultats de Coca-Cola. Un exemple purement micro. Coca-Cola, 19% de hausse de ses produits de prix en Europe. 19% en un an.
Les marques Coca ont pris 19%.
En moyenne, avec le mix produit. 19% de hausse. Donc, vous voyez, est-ce que vous auriez imaginé, il y a encore quelques années, annoncé qu'une entreprise de biens de consommation courante puisse monter les prix de 19%. Donc il y a quand même eu une capacité des entreprises, un pricing power des entreprises à relever les prix.
Et oui, l'un là, des vous éléments, prenez Coca, effectivement, c'est une marque irremplaçable.
Voilà, l'un des éléments
qui est. Je suis pas explique... sûr qu'un vendeur de pâtes puisse se permettre.
Oui, non, mais on parle de l'alimentation. L'alimentation, on est à plus 15%, et c'est vrai qu'on voit que ça a un des impacts. Mais ça joue sur le panier de consommation, ça joue sur le comportement. Mais il y a quand même un élément qui montre que par le passé, mais je suis pas sûr que ça continue, mais que par le passé, les entreprises ont pu remonter leurs prix de vente. Et pourquoi ? Parce qu'on a eu un excès d'épargne qui s'est matérialisé durant la période sanitaire, durant la période du Covid. Les ménages ont eu de l'épargne et ont amorti ce choc inflationniste par leur épargne. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on commence à avoir des banquiers centraux, et notamment il y avait un discours hier d'une présidente de la Fed de Cleveland aux États-Unis qui disait... aujourd'hui, l'un des éléments de la politique monétaire, c'est pas forcément de jouer sur le salaire, c'est pas forcément de l'un des éléments, ça sera de mieux rémunérer l'épargne pour que justement cette épargne elle reste finalement en placement, qu'elle ne nourrisse pas la consommation et que finalement ça ralentisse la demande. Et donc là, on est sur un changement de discours des banquiers centraux qui est de dire non seulement je vais ralentir l'économie, je vais ralentir la demande, mais pour ralentir la demande, faut que je rémunère maintenant de manière durablement élever l'épargne donc pour éviter que cette épargne finalement continue de nourrir la demande et entretienne l'inflation. Donc c'est quand même un petit élément changeant.
Ça plaide pour des hausses de taux.
Alors, ça plaide pour des hausses de taux, mais ça plaide aussi surtout, et ça c'est le moment le plus important, pour des hausses de taux durablement, une politique monétaire durablement restrictive. Parce qu'aujourd'hui, les marchés financiers, c'est la Fed monte ses taux ou la BCE monte leurs taux à un maximum, et puis dès le deuxième semestre, on baisse. Et tous les discours qu'on a sur la croissance mondiale, c'est mauvaise croissance, récession ou quasiment pas de croissance au premier semestre 2023 et après rebond. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que justement, ce rebond, il soit pas là, parce que d'une part, on va pas forcément avoir cette détente de politique monétaire, puisqu'on va avoir des banquiers centraux qui vont rester sur cette politique. Et puis après, d'autres éléments, par exemple, comme la crise énergétique, elle reviendra l'hiver prochain. Donc, il y a des éléments qui font dire que, attention, on sera peut-être plus sur des scénarios en W que véritablement un scénario en V, comme l'espèrent aujourd'hui les marchés. Et puis surtout, on est sur un changement de discours des banquiers centraux qui est beaucoup plus profond que ce qu'on est en droit de percevoir.
C'est un élément très nouveau que vous nous apportez sur le fait qu'effectivement, la question de la rémunération de l'épargne entre dans le spectre de la réflexion des banquiers centraux pour éviter que cet excès d'épargne ne nourrisse la consommation et donc n'ait d'effet inflationniste. Ça veut dire... Emmanuel Comte, on a une carence avant de marquer une pause.
Deux remarques par rapport à ce que disait Christian. La première, très rapide, je vous l'avais dit déjà en septembre, moi je pense qu'on est parti sur une inflation structurelle. C'est-à-dire, c'est pas que conjoncturelle. Alors, ça veut pas dire qu'on va rester à 6% hein, ou à 8% ou à 10%, mais on est parti pour une inflation de l'ordre de 3-4% à cause de la transition climatique. On nous dit tout le temps, mais non, l'inflation est d'abord due à la hausse du prix des énergies. Oui, mais la hausse du prix de l'énergie elle-même résulte de la transition climatique. Si vous montez la taxe carbone, mécaniquement, vous avez un effet sur le prix des énergies. Donc, ça, c'est quelque chose qui sera durable. Je voudrais juste réagir par rapport à ce que disait Christian sur l'idée que les entreprises avaient du pricing power. Je suis pas sûr, le pricing power, c'est la marge. Ce qu'on voit, c'est qu'elles augmentent leur prix. Mais pourquoi elles augmentent leur prix? Parce que leurs coûts ont augmenté. En fait, c'est un choc symétrique. Il y a une étude de l'Inspection Générale des Finances la semaine dernière sur un échantillon de 12 produits alimentaires qui vous montre qu'en réalité, elles sont d'abord en train de reporter. Tout n'a pas été reporté. Et en réalité, c'est simplement du report de coûts. Donc les marges, selon cette étude, les marges n'ont pas augmenté. Il y a une étude du FMI il y a un mois. Est-ce qu'on aurait des comportements de pricing power au sens strict, c'est-à-dire de la concurrence en fait, hein? Et le FMI dit finalement on peut pas déduire de l'atténuation de la concurrence sur les marchés le fait qu'il y ait plus d'inflation. Donc c'est plutôt des reports de coûts parce qu'elles subissent un choc elles-mêmes sur les matières premières et sur le prix de l'énergie.
Mais ça a forcément des limites, les reports de coûts.
Non, si c'est symétrique.
Oui, mais il y a un moment,
mais
il y a un moment où vous finissez par toucher les prix psychologiques que le consommateur ne peut plus supporter.
Nicolas, c'est pas
on en parlait avec Jérôme Dédéon pour ses confitures artisanales. Il dit moi quand je suis à 9 euros le pot, je peux
mais
pas.
Nicolas, c'est pas pareil d'augmenter seul son prix et de perdre des clients et quand tout le monde augmente ses prix, parce que là vous avez juste un effet macro qui est que ça va ralentir la consommation.
Après, il y a juste un point, c'est que je regarde plus les grosses entreprises cotées, et c'est vrai que je pense que les grosses entreprises ont plus de pricing power, et je pense que c'est le tissu des petites et moyennes entreprises qui souffrent énormément en ce moment, et je pense qu'on va avoir vraiment un effet véritablement avec des écarts de secteurs et des écarts de valeur, de niveau de valeur qui va jouer dans les prochains mois.